Bonjour et bienvenue dans Culture Tonique. Aujourd'hui, nous sommes au musée des sapeurs-pompiers de Genève. C'est monsieur Yvan Simon, l'un des bénévoles du musée, qui a accepté de répondre à nos questions. Pourriez-vous nous parler de l'historique du musée ?
Alors, le musée des pompiers se trouve à la rue 1 bis de la rue du Stand, à côté d'un grand bâtiment culturel aussi qui s'appelle le Palladium. Ce musée a été donc inauguré le 29 mai 2008 et a nécessité environ 20 000 heures de travail pour sa réalisation. Il a été aménagé dans une ancienne friche industrielle, ce qui donne en particularité un aspect assez cossu, mais très très joli, pour représenter parfaitement notre matériel. Le matériel exposé est donc entretenu par les sapeurs-pompiers professionnels, mais en retraite. Et à chaque visite, vous aurez l'occasion de côtoyer deux guides qui vous donneront plein de renseignements et au mieux, peut-être une petite anecdote sympathique de leur expérience de plus de 30 ans.
Comment avez-vous décidé un jour de devenir pompier ? Quelle a été votre carrière et votre grade final ?
Alors, pour information, je me nomme Yvan Simon. Donc, mon début de carrière a été dû à une rencontre fortuite avec un pompier qui était responsable du réseau hydraulique de la ville de Genève. Et après avoir passé un concours, subi des examens, j'ai été engagé en 1984 et j'ai réalisé 35 ans de carrière avec une évolution formative continue, avec en finalité un grade de sergent chef d'engin qui m'allait très bien puisqu'on restait au contact et avec des responsabilités quand même importantes.
D'année de carrière, est-ce que vous auriez deux anecdotes ?
Des grandes anecdotes, eh bien, ma plus grande intervention qui était relativement impressionnante, c'était le feu du tunnel du Mont Blanc. Donc, lorsqu'on est tout jeune, eh bien, on approche des sphères qui sont assez importantes, hein, avec énormément de monde sur place et beaucoup d'événements qu'on n'arrive pas forcément à juger tout de suite, mais qui, au plus tard, nous ont donné une expérience et un apprentissage sur justement le déplacement des fumées et ses dangers, ce qui a été extraordinaire. Sans quoi, autrement, des petites anecdotes tout à fait sympathiques, une petite maman qui pleure sur le trottoir et que l'on s'aperçoit au départ, en quittant le sinistre, on s'arrête, on lui pose la question « Mais chère madame, qu'est-ce qui se passe ?» Et la petite dame dit « Mais j'habite au quatrième étage et je ne peux plus rentrer chez moi parce que j'ai donné mes clés. » Alors nous l'avons simplement fait stopper l'échelle et puis nous l'avons raccompagnée chez elle, étant donné que la porte s'était fermée avec les clés à l'intérieur de sa maison.
Nous retournerons au musée des sapeurs-pompiers après Miranda Lambert.
Keep digging down for the deep.
Quels sont les articles ou les pièces présentées dans le musée ?
Alors, dans notre collection du musée, nous avons différents matériels. Nous avons déjà les véhicules au niveau du rez-de-chaussée, qui sont constitués de véhicules moteurs voitures, en fait. C'est les premières voitures qui sont dans les années 1900 et qui pourraient découvrir. Et après, vous avez les échelles, avec des échelles en bois et des échelles automobiles qui sont en métal.
Est-ce qu'il y a des pièces phares ou des pièces que les enfants ou les adultes sont plus fans de regarder que les autres ?
Tout à fait. Les casques sont toujours une particularité d'intérêt chez les enfants et même les adultes, étant donné que les casques sont en matière au début en laiton et après en évolution dans des matières synthétiques plastiques avec des formes très spéciales et des décorations juste magnifiques, surtout pour les casques qui dataient des années 1980 à 1900.
Parlez-nous un petit peu de l'évolution des moyens pour combattre le feu.
Alors les moyens d'extinction pour le feu, à savoir que nous parlons toujours des années donc de 1760-1800, au départ, les incendies étaient éteints uniquement à l'aide de bidons d'eau, étant donné que c'était les seuls moyens de pouvoir puiser de l'eau et de la propulser sur l'incendie. L'évolution s'est faite plus tard par des conduites d'eau qui ont été faites en premier en bois, puis après ont évolué en cuir et en chanvre. Et après cela, des études ont été faites pour pouvoir propulser de plus loin de l'eau sur des distances et des hauteurs plus grandes, donc à l'aide de pompes. Ces pompes ont suivi une évolution au départ, étaient donc mécaniques à force de bras, on appelait ça des pompes à bras, puis après est venu des pompes à vapeur où on profitait justement de la vapeur pour pouvoir donner de la plus de force sur l'eau et la propulser sur des distances un peu plus grandes et à des débits plus importants. Et à l'heure actuelle, nous profitons d'un réseau d'eau qui est existant sur tout le réseau de la ville de Genève, avec des moyens qui sont devenus mécaniques, donc à l'aide de véhicules, autopompes, ce qu'on appelle, et qui nous permettent de pouvoir avoir beaucoup plus de pression et de débit.
Un homme a été déterminant dans la création du corps des sapeurs-pompiers de Genève, c'est Robert Séard. Comment cet élu a participé à l'évolution du corps de pompiers ?
Alors Robert Séard était un important politicien de la ville de Genève et en 1840, il avait imaginé et décidé que lors d'interventions d'incendies importants sur Genève, il faut bien préciser qu'à l'époque, les bâtiments étaient faits de bois et étaient juxtaposés et brûlaient donc les uns après les autres. Et afin de pouvoir être efficace selon les secours et l'appel des secours, M. Séard avait eu l'idée de faire, en fait, de créer un bataillon et de créer des formations pour que les gens soient beaucoup plus efficaces pour la protection incendie et le sauvetage des gens sur Genève.
Une courte pause musicale avec Midland.
Listen to those highway lines, they're talking. Guess I feel like talking too. Look at that big old sun, he's leaving. Now I know what I gotta do. Tower keep shining like a big red eye on the edge of town. Back in high school, we used to dare each other to climb it. No one ever did, and we're still hanging around. When you're on feel the warm wind. The way it peels up my hand reminds me of you. And I remember every curve of you, woman. Guess we all need something to hold on to. When you're on your own, out on that open road, feeling like anything can happen. And to those comforts you know, you just say so long. And you run, and you run, and you run, and you run.
Matériel exposé, on voit aussi l'évolution des échelles. Certaines retiennent l'attention avec des crochets et d'autres sont à plusieurs plans. Mais parlez-nous un peu de toutes ces échelles.
Alors, les échelles, eh bien, c'est le moyen de pouvoir se rendre à plusieurs niveaux d'un bâtiment. À l'époque, il faut penser que les escaliers étaient souvent en bois, donc brûlaient facilement, et les accès pouvaient se faire que par l'extérieur, donc les fenêtres et les balcons. Des moyens ont été inventés et utilisés pour pouvoir justement accéder à plusieurs niveaux dans les petits immeubles à l'époque. Et donc l'échelle à crochet, elle, était faite en bois et munie d'un crochet simple ou double à son sommet, pour simplement s'accrocher au rebord de la fenêtre ou du balcon. Et le sapeur-pompier montait sur cette échelle, puis la retirait et continuait pour monter plusieurs étages de cette manière. Après, question de sécurité et surtout de rapidité également, les échelles à plusieurs plans ont été inventées. Donc quand on parle d'échelle à plusieurs plans, eh bien, c'était simplement la possibilité de coulisser deux échelles l'une sur l'autre et d'aller beaucoup plus haut, plus rapidement. Les échelles à plusieurs plans, voire même trois plans, munies d'arc-boutants qui servaient à poser plus d'appui pour cette échelle du son développement, pouvaient aller à une hauteur maximale de 15 mètres.
Parmi toutes les pompes historiques que vous exposés, et il y en a une qui fait sourire, c'est la pompe laitière. Pourquoi l'appelle-t-on comme ça et à quoi servait-elle ?
Alors, cette fameuse pompe laitière, eh bien, elle doit son nom uniquement à un char, en fait, à un transport de lait qui était fait par les paysans et qui était accessible facilement. Donc, on profitait de ce volume, de ce récipient, pour pouvoir transformer en matière métallique, donc pour faire une pompe à bras. Et on la remplissait d'eau au lieu du lait pour simplement éteindre l'incendie. Vous verrez lors de votre visite que, en fait, elle a une lance qui est posée directement sur son contenu. Et on appelle ça une lance à genouillère, et on l'a déposée à l'étage pour pouvoir gicler sur le feu.
Un interlude avec la jeune Catherine Magrasse. Les véhicules, eux aussi, ont évolué, et avec les véhicules, l'évolution des véhicules, l'évolution des pompes. Quelle est la différence entre une pompe, admettons, de 1850 et aujourd'hui ?
Alors, l'évolution des pompes, eh bien, vous pouvez vous imaginer. Au départ, le pompier avait à sa possibilité d'intervention, une pompe à bras, qui était un effet, si on veut, d'un piston qui appuyait sur l'eau et qui la poussait dans des tuyaux. Et à ce moment-là, on avait une propulsion d'eau, une coupure, et puis un mouvement, et de nouveau une propulsion d'eau et une coupure. Après, certains ingénieurs se sont penchés sur ce problème et ont inventé une sorte de réservoir d'air, puisque l'eau est incompressible. Et en compressant de l'air, on maintenait la pression sur l'eau et on avait un jet uniforme et continu. Ce jet avait en plus la possibilité d'être propulsé beaucoup plus loin et on augmentait un débit d'eau sur l'arrosage en fait de l'incendie, ce qui permettait une meilleure extinction. À l'heure actuelle, nous avons des moyens mécaniques qui nous régularisent forcément tout ce principe qui était dépendant de moyens au départ hypomobiles pour les déplacements, mécaniques au point de vue humain, donc c'était à force humaine, et après on s'est servi donc du possibilité de la vapeur pour remplacer les bras de l'homme, et maintenant la mécanique, donc cette mécanique, eh bien, elle gère pratiquement tout automatiquement cette force et cette possibilité de pouvoir propulser de l'eau sur de grandes distances et en plus avec des débits assez conséquents.
Nous poursuivons avec Brad Paisley.
Says something's wrong. This ain't a wild bull, it's just a bar stool, but it's all I can do to just hang on. George Strait's on the jukebox in the corner, singing about cowboys riding. This is where the
Musée des pompiers. Quelle a été l'évolution des extincteurs ?
Alors, pour l'évolution des extincteurs, il faut s'imaginer qu'au départ, nous sommes partis d'un seul seau qui a été transformé en seau-pompe après et qui est passé par plusieurs évolutions dans les formes et les volumes et avec des sortes de dérives où on a agi avec des engins pyrotechniques pour essayer d'éteindre un début de feu. Le seau-pompe était donc simplement rempli avec de l'eau. Puis après, l'évolution à l'aide de produits genre savon ou mouillant, ce qu'on appelle, donnait plus de possibilités d'application de refroidissement sur le feu. Et après, les études en chimie ont fait des résultats différents où on avait en fait trois sortes d'extinction. Je vous ai parlé de la première déjà, donc de la mousse. Et après, il y avait la poudre et aussi du gaz, du CO2 pour le refroidissement du feu. Donc ces extincteurs servaient en fait à un début de feu à essayer d'agir soit sur le refroidissement, soit sur l'étouffement, ou simplement par effet chimique, dans les pyrotechniques, justement, on agissait sur l'explosion pour souffler la flamme et en fait manger l'oxygène pour pouvoir produire l'extinction. Vous connaîtrez tous ces extincteurs, vous les avez tous vus dans les garages, dans les bâtiments des immeubles, etc., où ils sont faciles d'accès. Et vous avez aussi en connaissance dans les parkings où les plus gros extincteurs existants s'appellent les sprinklers.
Quelles sont les principales questions posées par les visiteurs ?
Souvent, il nous est posé la question comment est née l'idée de faire un musée sapeurs-pompiers et puis en plus de savoir comment il est géré particulièrement. Nous avons l'avantage de gérer bénévolement ce musée à l'aide de guides qui sont donc des retraités de la profession. Et souvent, les gens nous demandent quel est en fait le but principal pour nous de présenter ce musée. Eh bien, c'est simplement de pouvoir avoir un témoin de l'existence du départ de cette profession qui est devenue une profession. Jusqu'à nos jours.
Sitting there on the shoulder, that rear view.
making nowhere, waving a prayer. I know just how you feel,
but it's the stars that make the night.
It's the low that makes the high.
It's the love that makes the line.
It's the road that makes the right.
On ne parle jamais de l'incendie du Grand Théâtre ?
Oui, oui, tout à fait. Le Grand Théâtre, c'était un des grands, grands événements qui a été fait en 1951 et qui avait bien marqué la population genevoise par son ampleur, étant donné qu'en plus le bâtiment venait d'être rénové et que le feu a détruit de nouveau cet édifice dû à une répétition des Valkyries avec des engins justement pyrotechniques. Donc les gens nous posent des questions, qui était sur place, le nombre de personnes, il est toujours dur de dire et d'avoir tous ces chiffres en tête, mais c'était un des plus gros événements de l'époque.
Quelles sont les heures d'ouverture du musée ? Et accueillez-vous aussi des écoles ?
Alors, certaines écoles sont sur demande, sont accueillies, pas des écoles de trop petits parce que nous avons des soucis après de discipline et puis de sécurité, mais les écoles à partir de donc l'école primaire sont acceptées sur demande. Les heures d'ouverture du musée sont donc le mercredi et le dimanche de 10h à midi et de 13h30 à 15h30. Le musée est fermé pendant les périodes de vacances scolaires, donc juillet, août et les jours fériés.
Nous terminerons en musique avec Blake Shelton.
To talking lately, they've been talking about me. Yeah, they say I've been rocking, maybe even causing the scene. But girl, I'm still the life of the party, the same old good time Charlie. Friday night. Curtains ain't just my head hurting like hell. And the thought of you, baby, laying there with somebody else. But by the end of the week, I'll be over dealing with you goodbye sober. Then Friday night I get to buzzing till I'm feeling nothing, drinking two for one's way past two. By Saturday I'm long gone, lit up like the neon, thinking that I'm bulletproof. By Sunday I'm backsliding, can't help it, can't.
missing you.
Chers auditeurs, c'était Nathalie Rendu au micro de Culture Tonique. Je vous rappelle que je vous retrouve tous les mercredis à 9h, les vendredis à 19h ou sur les podcasts. Merci de votre écoute et rendez-vous à mercredi prochain, 9h.